Attention, le duo de choc sportif arrive, Philippe Quentin et Martin McGuire. Salut les gars.
Salut.
On va commencer avec Philippe. Philippe Quentin, je veux que tu me parles de la triste histoire, puis Martin, tu peux embarquer, là, la triste histoire de Tim Thomas, l'ancien gardien des Bruins.
Oui, tout à fait. Tim Thomas a été élu au temple de la renommée américain du hockey et il en a profité pour donner sa première entrevue depuis qu'il a pris sa retraite. Et il a expliqué à quel point une commotion cérébrale qu'il a subie en 2013 a gâché sa qualité de vie complètement. Il raconte dans ce... Évidemment, l'article a fait le tour de l'Amérique. Il raconte que après cette commotion cérébrale-là, dont il porte encore les séquelles aujourd'hui, il était incapable dans les jours qui suivaient de décider quoi manger, de comment organiser sa journée. Il était absolument dans l'impossibilité d'établir un horaire quotidien. Et il dit qu'il s'est fié à l'horaire de l'équipe, puis il suivait ce que l'équipe faisait, puis c'est à peu près ça. Puis par la suite, il a mis fin à sa carrière. Et encore aujourd'hui, les séquelles sont tellement importantes. Il y a un problème d'irrigation du cerveau. Le sang là, n'atteint pas dans le cerveau les niveaux habituels. Qu'encore aujourd'hui, là, juste se mettre en marche le matin puis organiser sa journée, ça lui prend au moins 2 heures.
Philippe, on parle d'une commotion cérébrale.
Oui, il y en a probablement eu d'autres dans sa carrière, mais celle-là en particulier, c'est celle qui lui a fait le plus mal. Il dit qu'il conserve de beaux souvenirs du hockey quand même. La Coupe Stanley en 2011, il a gagné le trophée Conn Smythe, joueur le plus utile à son équipe, mais il en reste pas moins que ça a complètement, ses blessures-là ont complètement aujourd'hui détruit, ou en tout cas en bonne partie sa qualité. Triste histoire.
Je veux demander à Martin McGuire, là, qui évidemment a côtoyé de loin Tim Thomas, oui, gardien de but des Bruins. Est-ce que on sait que c'est un gars qui avait un comportement particulier? Est-ce que ça pourrait expliquer?
Je pense pas, parce que à l'époque où on le côtoyait vraiment, quand il jouait pour les Bruins de Boston, il a pas eu ces problèmes-là. Okay. Mais c'était un oiseau rare, Tim Thomas. Moi, je vais rappeler deux anecdotes bien brèves avec lui. On est aux Jeux olympiques de Vancouver. C'est juste avant un match Canada-USA, les États-Unis. Lui, il est l'auxiliaire des Américains. Puis là, on est à peu près 60 journalistes autour de lui. Puis on lui parle de l'effervescence des Américains contre le Canada sur une glace canadienne à Vancouver. Puis lui, il coupe la parole de celui qui pose cette question-là. Puis il regarde et dit, je trouve ça bien le fun, mais il n'y a rien qui va battre un match Canadien-Bruins au Centre Bell, un match de série. Alors, ça, c'était ça, Tim Thomas. Une fois, je lui demande, parce que quand il a gagné la Coupe avec les Bruins, là, l'année d'avant, les Bruins l'avaient échangé. Ils l'avaient échangé aux Panthers de la Floride en retour de Claude Giroux. Et cette transaction-là a été bloquée par le président des Panthers de la Floride. Et quand les Bruins ont gagné la Coupe, l'année d'après, je me souviens de lui avoir dit, je lui ai dit, écoute, l'équipe a quand même voulu t'échanger puis t'as gagné la Coupe avec eux. Comment tu t'es senti avec tout ça, par rapport à tout ça? Il me regarde dans les yeux puis il dit, ce que je ressens vraiment, je le partage seulement avec mes amis et tu ne fais pas partie de ce groupe-là.
Alors... C'est un gars qui avait son franc-parler.
Oui, bien, il a refusé d'aller à la Maison-Blanche après la victoire des Bruins en 2011 en Coupe Stanley. Le président Barack Obama a invité les Bruins à la Maison-Blanche, puis lui, il a refusé d'y aller pour des considérations politiques. Il n'était pas d'accord avec les politiques d'Obama. Alors, à l'époque, ça avait fait énormément jaser.
Ah
là.
Oui. Effectivement, écoutez, en tout cas, c'est un personnage assez coloré, mais je trouve ça vraiment triste d'entendre ce qu'il a vécu quelques années après.
Philippe, parle-nous, puis peut-être que Martin a un point de vue là-dessus. Là. Il y a une application qui a été développée pour que, un peu à la Airbnb, là, tu sais, on donne une note au logement dans lequel on a séjourné. Ben là, il y a des joueurs de hockey qui peuvent évaluer leurs entraîneurs passés.
Tout à fait. Un article super intéressant de notre collègue Alexandre Pratt dans la presse cette semaine. Alors, ça s'appelle The Sports Ox. Ça a été créé par un ancien joueur des ligues mineures qui s'appelle Josh Healy. C'est ça. Il a décidé que si on est capable d'évaluer les professeurs, puis les chauffeurs de taxi, puis les médecins, pourquoi on n'évaluerait pas les entraîneurs de hockey? Alors, évidemment, sa démarche est bien lancée. Il y a encore... il va falloir l'améliorer d'une certaine façon aussi, notamment là, savoir combien de joueurs se prononcent sur chaque entraîneur de façon à ce que l'échantillon soit suffisant pour porter un jugement réel. Mais c'est assez intéressant parce qu'Alexandre, dans son papier, donnait des notes qui ont été jusqu'à maintenant attribuées sur ce site-là. Et Patrick Roy, par exemple, hein, souvent on dit que Patrick Roy, c'est un gars dur, puis qui peut vraiment prendre les nerfs un peu et tout. Bien, sa note, c'est 10 sur 10. Pascal Vincent, un Québécois qui est assistant, qui est dans l'organisation des Jets de Winnipeg, 9,6 sur 10.
Oui.
Oui, puis Michel Therrien, 8,3 sur 10. En revanche, Bob Hartley, 2 sur 10. Sylvain Lefebvre, qui a longtemps dirigé la filiale du Canadien, 4,3 sur 10. Alors, on ne connaît pas exactement combien de joueurs se sont prononcés, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on s'en va là dans le hockey. Là.
Mais tu sais, par exemple, si tu demandais au gardien de but Louis Domingue de noter Patrick Roy, probablement que tu arriverais à 2 sur 10 aussi.
Oui. C'est pour ça que ça prend, de grands échantillons. Pour éliminer les notes peut-être trop grandes données par des joueurs qui ont adoré un entraîneur, puis les trop faibles par ceux qui l'ont détesté.
Ça, les gars, c'est la faiblesse là, de cette application-là. C'est qu'on ne sait pas, les scores sont donnés sur la foi de combien de commentaires.
Exactement. Alors, mais tout ça, ça vient d'être lancé. Là, ça fait quelques temps à peine. Alors, j'ai l'impression qu'on va améliorer ça au fil du temps. Mais j'ai trouvé que c'était une initiative intéressante. Et l'article d'Alexandre était super le fun.
Martin, on va finir là-dessus demain. Visite de Détroit avant le très long voyage du temps des fêtes.
Oui, effectivement, c'est le dernier match local du Canadien en 2019. C'est des points importants sur la table parce que les 7 matchs qui vont suivre, 4 matchs dans l'Ouest canadien qui nous mènent au 23 décembre, c'est-à-dire l'avant-veille de Noël et la petite pause de Noël, et ensuite, on les appelle les deux Florides et le 31 décembre en Caroline du Nord. Alors, c'est ce qui attend le Canadien, 7 matchs consécutifs sur la route. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, je le répète encore, c'est le voyage qui soit coule le Canadien ou c'est le voyage qui va parfois transporter le Canadien vers une bonne deuxième moitié de saison. Il est aussi important que ça. C'est pour ça que demain soir contre Détroit, là, je dis pas que c'est 2 points qui traînent parce qu'on manque pas de respect à une équipe de la Ligue nationale, mais vraiment, il ne faut pas que le Canadien trébuche contre une équipe comme Détroit. Certainement pas demain.
Merci beaucoup, Martin. Merci, Philippe.
Hey, bon week-end.
Bon week-end à Philippe qui ne travaille pas et bon week-end à Martin qui travaille. Salut les gars, il est 16h, presque 35. Sarah-Jeanne Labrosse va être avec nous pour nous parler de l'émission Mammouth à Télé-Québec.